François Laplantine, bonjour.
Bonjour.
Alors, anthropologue plutôt spécialisé sur le Brésil et ethnopsychiatre, ouais. Pourquoi François Laplantine, vous êtes-vous intéressé en 2008 à la Chine?
Moi, c'est vrai, j'ai jamais été attiré particulièrement par l'Asie, puisque je travaille depuis une vingtaine d'années sur les sociétés. Je suis anthropologue. Je travaille sur les sociétés d'Amérique latine et plus précisément sur le Brésil que je connais le mieux. Et puis c'est comme si la Chine m'avait tiré. J'étais invité une première fois en 2008 par l'Académie des sciences de Pékin pour participer à un séminaire sur la notion de gouvernance mondiale. Puis ensuite, je suis resté en communication, en lien avec des collègues chinois que j'ai revus à Paris, à Lyon. Et en 2008, on a organisé avec Maurice Godelier et Tsai Roy, qui est un anthropologue chinois, le premier séminaire franco-chinois d'anthropologie. Donc j'ai profité. Moi, je suis pas, je suis pas un spécialiste. Mais j'ai profité de ces deux missions pour m'attarder, pour plonger un petit peu pour découvrir Pékin et lire, je pense qu'on va en reparler, et lire et voir des films. Et ça, alors là, ma préoccupation pour le cinéma chinois et avant pour le cinéma japonais, elle est déjà ancienne. Et donc, ça a donné ce livre.
Alors vous dites que parler de la Chine pour un Français ou parler de la France pour un Chinois, c'est parler de soi à travers ce que l'on imagine de l'autre. Alors vous, François Laplantine, est-ce que vous nous parlez de vous à travers ce livre?
Elle n'est pas commode, votre question. On parle nécessairement de soi, mais en anthropologie, il ne s'agit pas de ramener les autres à soi-même. Il s'agit au contraire de désapprendre au contact des autres. Mais c'est un livre qui s'appuie sur une triple démarche. Une démarche ethnographique, c'est-à-dire l'observation la plus précise possible des comportements quotidiens, des interactions à l'université, dans le métro, dans le bus, dans les bars de karaoké, dans les restaurants, dans les commerces, partout. Donc ça, c'est la première méthode. La deuxième, pour moi, ça a été l'exploration de la littérature chinoise contemporaine, et en particulier du roman. Donc j'ai constitué un corpus d'environ 120 ouvrages, alors tous en traduction française. C'est la limite de ma recherche, c'est que j'ai très peu accès à la langue chinoise. Donc j'ai vécu au Japon avant d'aller en Chine. Donc mon accès, c'est par l'intermédiaire des kanji japonais. Bon, j'arrive malaisément à décrypter les pictogrammes, mais je parle pas, je comprends pas. Donc ça, c'est la limite du livre. Et puis le troisième démarche, bon, c'est tout ce que nous apporte le renouveau du cinéma chinois, qui est formé dans les apports du cinéma documentaire chinois, qui est particulièrement vivant.
Dans quel état d'esprit vous avez abordé Pékin la première fois?
Sans savoir, sans préjugés. Mais ça va me permettre de répondre quand même à votre précédente question, parce que je m'aperçois que j'ai pas bien répondu. La Chine et la France, c'est ce qui apparaît comme le plus éloigné. Quand je me trouve à Tokyo, j'ai pas l'impression d'être en Asie, hein. C'est parce que bon, c'est une société qui est à la fois traditionnelle mais très américanisée. À Pékin, ben, vous le savez puisque vous connaissez bien, on se sent en Asie. Alors ça va provoquer un déclenchement de fantasmes, de représentations, de projections des Français sur les Chinois, des Chinois sur les Français. Alors il ne s'agit pas d'abolir la distance, mais d'essayer de comprendre autant que faire se peut, l'expérience des autres.
Et d'ailleurs, puisque vous connaissez bien le Japon, vous trouvez dans la rue chinoise beaucoup de différences avec Tokyo.
Mais toutes les villes asiatiques ont des caractéristiques communes. Pour moi, c'est des sociétés iconiques. Dans la ville chinoise, comme dans la ville japonaise, on se déplace dans un univers qui est un univers de dessin, qui est un univers de peinture. Je dirais à travers les caractères chinois, la nature est présente dans la ville. Alors, ce qui me frappe, la différence entre Pékin et... Tokyo, vous connaissez Tokyo? C'est deux villes qui sont très très différentes. Une première différence, c'est sans doute elle est sans doute chromatique. C'est-à-dire que les caractères, les kanji, les caractères japonais, sont toujours verticaux et ils sont toujours en noir et blanc, comme dans l'art graphique du Shodo. Alors qu'on va trouver davantage une prolifération de couleurs, et notamment de rouge et de jaune, dans la rue chinoise, dans la rue pékinoise. Je dirais, sur Pékin, c'est une ville qui est très... Alors, c'est une ville qui est en changement permanent. Moi, quand je suis arrivé la première fois en 2008, il y avait 5 périphériques. C'est ce qu'on appelle les périphériques, c'est vraiment des très grandes artères qui traversent littéralement la ville et qui changent complètement la configuration de la ville. Quand je suis revenu l'année dernière, il y en avait un sixième et on est en train d'en construire un septième et il y a la perspective d'en inventer un huitième.
Il y en aura un neuvième aussi.
Oui, c'est ça qui frappe, c'était surtout quand je suis arrivé la première fois en 2008, on a l'impression que c'était après les Jeux Olympiques. Et je ne sais pas si vous étiez à cette époque-là, alors Pékin était un véritable chantier de démolition. La ville avance la ville change à toute vitesse, elle grandit, elle s'étend à la fois vers le nord, vers le sud, vers l'est, vers l'ouest. Donc c'est absolument immense. C'est sans proportion avec Paris, qui paraît presque une ville de province. Alors, puisque je parle de Paris, je dirais la ville de Pékin et la vie à Pékin est agitée, mais elle n'est pas stressée, comme peut l'être Paris. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi.
C'est plus calme. Pas tout à fait.
C'est quand même plus calme, c'est plus tranquille. Alors, il y a à la fois des espaces et des temporalités d'agitation, mais il y a aussi beaucoup de temps. Il y a beaucoup d'espace, de concentration, de décélération, en particulier parce que Pékin est formé par de nombreux parcs, de nombreux lacs, de nombreux endroits où les gens viennent se détendre. Alors, les gens travaillent très vite, tout avance à toute vitesse, en particulier tous ces ouvriers qui s'appellent les Mingong, qui sont les ouvriers qui viennent des provinces pour travailler, qui ont des casques jaunes, et qui actuellement doivent faire, je pense, un habitant sur trois à peu près. Donc c'est une ville qui est toujours en train de bouger, en train de changer. Et je n'ai plus reconnu Pékin 3 ans après.
Alors qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez visité la cité interdite?
Alors d'abord, c'est pas ce que j'ai ressenti, mais c'est ce que j'ai observé. C'est-à-dire un extrêmement grand nombre de touristes, et en particulier chinois, qui viennent dans ce qui est vraiment le cœur du cœur, qui est le centre. La Chine, en chinois, c'est l'empire du milieu, mais on est là dans le milieu du milieu. Alors ce qui nous frappe d'abord, c'est ce nombre incroyable de cars qui vont déverser des gens qui viennent de toutes les provinces, parce que je dirais que c'est presque une visite obligatoire. Ce qui me frappe chez les Chinois, alors plus particulièrement dans cette situation-là, mais en général, c'est, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, c'est à la fois un sentiment d'humilité et de fierté d'être Chinois. Et quand on vient dans la cité interdite, ce qui ressort, c'est la fierté d'être chinois. Bon, pour moi, c'est extrêmement écrasant, parce qu'on est vraiment là dans la cité du pouvoir, dans la cité où il y a eu, mais où il continue d'y avoir, une séparation entre les détenteurs du pouvoir et les autres. Donc ça peut pas le laisser insensible, mais moi, personnellement, je me suis senti exclu. C'est dans ces circonstances-là qu'on ne se sent pas chinois, comme sans doute les Chinois qui vont visiter Versailles.
Oui, si en somme toute en toute logique. Vous parlez aussi de l'odeur de Pékin.
Ouais, c'est une odeur de... D'abord, il y a une couleur de Pékin qui n'est pas le rouge, comme on peut le penser, parce que tout n'est pas rouge, c'est gris, c'est une ville grise. Il y a une intensité sonore qui est beaucoup plus forte. Il y a tout le temps des klaxons, des sonnettes de vélo, des marteaux piqueurs. Donc c'est une ville bruyante qui, à cet égard, me rappelle le Brésil. Et il y a toujours une odeur de poussière et de soupe et de friture.
Ce qui n'est pas si désagréable.
Il y a deux caractéristiques de la vie chinoise, telle que je l'aperçois à partir de Pékin, et qui sont, il me semble, les concentrés de la civilisation chinoise. Je ne parle pas de culture chinoise, il n'y a pas une culture chinoise. Si on parle de culture chinoise, c'est la culture des Han, c'est-à-dire l'ethnie, entre guillemets, majoritaire, mais qui s'est imposée à toute la Chine. La Chine, c'est pas une culture, comme le Japon. La Chine, c'est une civilisation. C'est ça, oui, c'est ce mélange de soupe, de friture et de poussière. Et je crois qu'il y a deux, pour moi, il y a plusieurs caractéristiques, mais il y en a deux qui sont les concentrés de la civilisation chinoise. C'est la calligraphie, c'est l'art d'écrire et c'est la gastronomie. C'est véritablement une très grande passion et c'est pas une cuisine, ce sont des cuisines extrêmement diversifiées. Alors on a toujours, c'est très très important pour il y a une expression chinoise qui dit nourrir le vivre, c'est-à-dire l'individu ne peut exister, il ne peut prospérer qu'en mangeant. Et c'est une nourriture qui est d'une extrême délicatesse, d'un extrême raffinement, qui n'est pas la cuisine chinoise, vous avez vu, qu'on connaît ici, qui est plutôt la cuisine de canton.
Tout à fait, je vois que vous avez été séduit par la cuisine pékinoise. Vous choisissez deux mots pour caractériser Pékin, contradiction et hybridation.
Ben oui, c'est... oui... Bon, la contradiction, pour moi, elle est partout. Mais ce que nous appelons contradiction, à partir de notre logique occidentale et occidentalisante, qui est une logique de l'identité et du tiers exclu, les Chinois ne le vivent pas comme ça. Ils vivent comme conciliation de ce qui n'est pas des contraires. Je prends l'exemple qui, pour moi, est le plus pertinent. Je vais revenir à la ville de Pékin. C'est l'expression économie socialiste de marché. C'est-à-dire que pour nous, c'est comme s'il y avait deux pôles qui étaient incompatibles. Être dans l'économie libérale et d'être dans l'économie socialiste. Mais là où pour nous il y a contradiction, il y a conciliation. Et on est dans une hybridation permanente. Moi, ce qui m'a frappé, par exemple, vous connaissez certainement le temple du ciel. Alors donc, je crois que c'est un des summums de l'architecture Ming, un endroit qui est au sommet de l'architecture chinoise. Et en même temps, quand vous arrivez, il y a cet écran géant dans lequel il y a des publicités pour les voyages touristiques, pour les banques. Et on va trouver, de la même manière dans les supermarchés, ce qu'il y a de plus mercantile, ce qu'il y a de plus capitaliste, mais on va trouver également les drapeaux rouges, et les drapeaux rouges avec le marteau et la faucille. Donc il y a cette hybridation, il y a ce mélange de communisme, de Bouddha, de taoïsme et de business. Parce que on est dans un régime hyper capitaliste et hyper mercantile, mais sur lequel continue de flotter le drapeau rouge. Alors c'est une société assez curieuse, parce que c'est une société dans laquelle le modèle politique dérive du marxisme-léninisme, mais qui est compatible avec le business, et qui a encore comme justification le confucianisme, le tout évoluant sur un fond taoïste diffus. Ce qui fait que, pour la logique des Occidentaux qui aiment bien séparer les choses, vous voyez, pour comprendre, la Chine, et en particulier la ville de Pékin, elle est extrêmement perturbante, parce que vous trouvez tout et son contraire.
Qu'est-ce que la littérature chinoise contemporaine nous dit de la société ?
Alors, elle est pour moi indispensable parce que, bon, moi quand je suis à Pékin, je suis étranger, je suis pas sinologue, je n'ai accès à ce que j'appellerais la scène urbaine. Et ce que nous montre la scène, de même que les images qui sont diffusées par les grandes chaînes de télévision, notamment ce mastodonte qui s'appelle CCTV, là, ce sont des images de réussite, de succès, d'exploits économiques, commerciaux, sportifs. Et puis il y a encore dans le discours des dirigeants, dans le discours officiel, toute une rhétorique, toute une solennité qui célèbre la grandeur de la Chine. Dans la littérature chinoise contemporaine, il n'est absolument pas question de ça. Alors, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a une littérature qui est extrêmement développée. Et moi, parmi les livres que j'ai lus, je distingue deux sortes de, on va dire, deux courants. Il y a un courant d'une littérature qui est exubérante, romantique, baroque, qui me rappelle un petit peu ce qu'on a appelé le boom latino-américain avec des écrivains comme Garcia Marquez. Ce sont des histoires rocambolesques. Ce sont des écrivains comme Yu Roy ou Mo Yan. Puis vous avez aussi vous avez à côté de ça une littérature, comment dire, qui est tout en retenue, en discrétion, comme des auteurs comme Chili ou Yan Liangke. Mais si je distingue deux courants, je dirais que pratiquement tous les romans chinois, et je parle bien sûr d'une littérature d'auteur, hein, parce qu'il y a aussi il y a aussi n'importe quoi, il y a aussi plein de choses qui sont empruntées à la mode occidentale, ce que font voler en éclats les auteurs chinois contemporains, les écrivains chinois contemporains, c'est la morale confucéenne de la piété filiale, de l'obéissance à la loi, du respect de l'ordre. C'est-à-dire que la littérature nous permet de voir ce que le discours officiel dissimule. Qu'est-ce qu'elle dit, cette littérature ? Elle nous parle de la difficulté de la vie quotidienne. Elle nous parle d'individus qui sont pas tant opprimés que désorientés. Elle nous parle des disparités sociales, des écarts croissants, hein, entre ceux qui sont dans les classes supérieures et les travailleurs, les Mingong. Elle nous parle de la difficulté d'être femme. Donc j'ai l'impression qu'avec la littérature et avec le cinéma, on arrive à se rapprocher de ce que j'appellerais le pays réel. Parce que c'est très difficile de voir la Chine, parce que la Chine, elle est aveuglée par des projecteurs qui sont braqués sur elle. Et on a à la fois une manipulation du pouvoir, mais on a aussi une simplification, en particulier journalistique, en Occident. Et la Chine, elle est Enfin, la Chine, on ne peut pas parler de la Chine, c'est tellement grand. Mais ce qui se passe en Chine, c'est pas ce qu'on nous montre et c'est pas ce qu'on croit. C'est plus complexe et c'est beaucoup plus subtil, parce que je trouve que c'est un pays d'une très grande élégance et d'une infinie subtilité.
Pour mieux comprendre l'envers du décor chinois, il faut donc lire et aller au cinéma. On en parlera tout à l'heure. Mais dans votre livre, vous parlez beaucoup de Lusun. Et vous faites un parallèle que j'ai trouvé audacieux entre Lusun et Kafka. Et d'ailleurs, vous citez Ilias Canetti, qui dit que Kafka est le seul écrivain chinois que possède l'Occident. Alors autour de ça, ça m'a semblé intéressant de voir quels sont les rapports entre Lusun et Kafka.
C'est pas évident du tout, hein, parce qu'on a... On a un écrivain pragois qui est, un des symboles de ce qu'on appelle la modernité. Et puis on a un autre écrivain, et bien sûr ils ne se connaissent pas, ils ne sont pas lus. Mais il y a deux, vous voyez ce qu'on appelle modernité, qui est un terme qui a été fondé par, qui a été créé pour la première fois par Baudelaire. Ce qu'on appelle modernité, il est temps de la dire au pluriel. Ce qu'on appelle la semaine de... Je crois que ça s'appelle la semaine d'art moderne. Aidez-moi, peut-être, de 1922, en Chine, c'est une révolution du langage. Et c'est une révolte contre l'obéissance à la famille, à la loi... À l'Empire, quoi. Parce que la Chine, elle fait une révolution. Et là, il y a une révolution culturelle. Alors évidemment, si je dis révolution culturelle, c'est pas au sens de Mao, mais une révolution du langage, il y a une révolution des comportements, et il y a cette perception que le langage et les images, les mots et les choses ne coïncide pas, que tout est étrange. Et moi, à travers la lecture de Lusun, j'ai retrouvé Kafka. Mais on peut le dire aussi dans l'autre sens. Ce sont des écrivains qui vivent une société qui est en train de se terminer, une autre qui est en train de commencer. Les deux vont révolutionner le langage. Et donc je prends l'exemple du ce qui s'appelle, c'est un petit texte que tous ceux qui s'intéressent à la Chine doivent lire, la véritable histoire de HQ. Et bien vous avez un personnage qui est aussi paumé que tous ces pitres, ces petites gens qui parcourent les nouvelles et les romans de Kafka. C'est extrêmement proche. Et j'ai essayé de montrer qu'entre Lusun et Kafka, qu'entre Shen Kongwen, qui est un autre écrivain, alors tout à fait différent, plus ancien, et Jean-Jacques Rousseau, qu'entre Laocheux et Brecht, il n'y a pas une vague similitude, il y a une réelle parenté. Et vous voyez, mais ce que je veux dire par là, c'est que la Chine, c'est pas l'autre de l'Occident, ou vice-versa. À travers ce que vous pouvez observer, lire ou voir en Chine, eh bien, ça vous permet aussi de mieux nous comprendre, nous.
Oui, vous avez plutôt tenté de réaliser des passerelles que d'opposer.
Oui, oui.
On a parlé tout à l'heure de Moyan et Yuhua. C'est quand même les porteurs du néo-réalisme, ces deux écrivains.
Oui, oui, tout à fait. Peut-être, attendez, ce qu'il faudrait dire quand même, hein, c'est... parce que votre émission, c'est une émission de totale liberté. Hein, la Chine... je dirais pas que c'est une dictature. Ça n'a pas... pour moi, j'ai connu l'Union soviétique, j'ai connu la Roumanie avant la chute de Ceausescu. On est dans une réelle dictature. Mais il y a quand même un contrôle social en Chine. Vous pouvez pas... Je dirais pas que vous pouvez pas tout dire. Vous pouvez pas tout dire en public. Voilà. On va rappeler que le roman en Chine, c'est pas le genre littéraire qui a une totale légitimité. Ce qui est vraiment au sommet de l'art dans la société chinoise traditionnelle, c'est la peinture et c'est la poésie. Et d'ailleurs, la peinture et la poésie pratiquement ne font qu'un. C'est nous qui la séparons. Et moi, dans les romans qui m'ont intéressé, dans les romans de Mo Yan ou de Yu Hua, et c'est des romans qui ont un grand succès en Chine. Par exemple, Brothers, ça a dû tirer à 3 millions d'exemplaires, ce qui en Chine n'est pas énorme d'ailleurs, parce qu'ils sont tellement nombreux. Alors il y a cette veine qu'on peut appeler, et que les Chinois eux-mêmes appellent néo-réalisme. C'est une littérature qui est très descriptive et qui s'appuie vraiment sur ce qu'ils ont observé de la condition des gens, des villes et des campagnes. Et ce courant-là, ce courant néo-réaliste, eh ben, disons qu'il est aussi assez proche de ce qu'on appelle je dis néo-réaliste parce que si on dit réalisme, c'est les fresques grandioses, vous voyez, de la rhétorique et de la littérature maoïste qui en mettent plein la vue, quoi, qui vont célébrer l'héroïsme du peuple chinois. Alors que les personnages de ces romans-là, c'est plus le groupe aujourd'hui, c'est plus les gardes rouges, par exemple, c'est pas non plus exactement le conflit entre le sujet et le groupe, c'est le sujet désorienté. On va trouver des gens ils ont l'impression qu'ils ne savent pas bien où va le pays. Et il est possible de dire aussi que le pays fonce dans le mur par sa recherche d'une croissance exacerbée, par tout ce qui a si mal réussi ici.
Alors, du côté du cinéma, vous citez Antonioni dans le film Chongkuo, la Chine, réalisé en 72, n'a été autorisé en Chine qu'en 2004. D'ailleurs, on parlait à propos de ce qu'on peut faire et ce qu'on peut dire en Chine. Donc, ce film est fondateur pour vous
Ah oui, oui. C'est parce que ce qu'il y a de... Il faut dire d'abord que c'est un film qui dure 4h30. Hein. Ce film, vous le trouvez actuellement en DVD dans le commerce. Antonioni était communiste. Le gouvernement chinois, si je me souviens bien, il doit être tourné en 72 ou 75, c'est-à-dire en pleine révolution culturelle, en pleine campagne contre Confucius et Lin Biao. Et le gouvernement chinois fait confiance à Antonioni. Et Antonioni, il arrive sans préjugés, il filme tout. Et d'ailleurs, il est, si vous avez vu ce film, moi je conseille à tout le monde d'aller le voir, c'est lui qui, bien sûr, observe les Chinois, mais son équipe cinématographique est autant observée. Et il nous montre pour la première fois, ça c'est tout à fait incroyable, des gens qui n'avaient jamais vu d'occidentaux, qui se sont tout à fait perturbés par l'arrivée des caméras, et Antonioni est aussi perturbé par leur réaction. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la rigueur, c'est l'approche extrêmement minutieuse, scrupuleuse. Jamais il ne porte de jugement de valeur, jamais il ne va condamner, mais bien sûr, il montre ce qu'il voit, et c'est pas un film qui va célébrer le miracle de la révolution culturelle. Et donc, pour moi, c'est un film pionnier, vous voyez. C'est un film qui s'inscrit vraiment dans ce que vous venez de dire, dans le courant du néo-réalisme.
Oui, on ne le quitte pas, de la littérature au cinéma. Alors, Chen Kaige et Zhong Yimou ont ouvert la voie, justement, à Jia Zhangke et Wang Bing. Oui, oui.
Ce qu'il y a, c'est actuellement, on va dire depuis le début des années 80... Je crois que le premier film, moi, ce qui m'a intéressé, c'est les films de rupture, si vous voulez. C'est les films de rupture avec l'idéologie maoïste, qui était un cinéma de manipulation. Bon, il y a depuis très longtemps une école de cinéma à Pékin, il y en a aussi à Shanghai, il y en a aussi ailleurs. Il y a des jeunes réalisateurs qui cherchent à montrer qui s'inspire, on va dire, du cinéma documentaire, hein, qui cherche à montrer la réalité de ce que vit la population chinoise. Et effectivement, moi, je me suis intéressé beaucoup à des gens comme Wang Bing. Je crois que tout le monde doit voir ce film de 7h30 qui s'appelle « À l'ouest des rails », ou encore Wang Chao, Wang Kuan, au Chia Zhangke, effectivement. Et c'est un cinéma qui nous montre ce qu'on ne peut pas voir. C'est-à-dire, finalement, c'est la destruction d'un monde ancien, et en particulier l'abandon des grands complexes sidérurgiques pour aller vers une économie libérale, les gens qui perdent leur emploi, la transformation du travail, la transformation de la vie quotidienne. Et alors, ce qui me frappe beaucoup dans ces films, c'est des... Je trouve que il y a une manière chinoise de filmer qui est reconnaissable entre toutes, dans la longue durée du plan séquence. Si un cinéaste occidental faisait ça, mais il ne peut pas le faire, ce serait dramatisé. Or, ce qui ressort de ces films, c'est une impression d'une certaine sérénité. L'histoire est en train de changer, et à grands pas. Le rapport au travail est en train de changer. La société est en train de se transformer. Et c'est très dur pour beaucoup. Mais on n'en fait pas toute une histoire. Seulement de toutes petites histoires. C'est ce côté fragile, précaire et très soigneux. Parce que c'est un cinéma qui respecte les acteurs et qui souvent ne sont pas des acteurs professionnels. Et c'est un cinéma qui respecte les spectateurs. C'est aux spectateurs de terminer le film, comme disait Renoir. Et je crois qu'il y a vraiment un très grand apport du cinéma contemporain, du cinéma chinois contemporain, au cinéma mondial.
Finalement, quelqu'un comme Jia Zhangke, il fait aussi œuvre de sociologue.
Ah, mais bien entendu, si je prends le dernier film qui s'appelle 25 Cities, on voit vraiment une grande usine qui est en train d'être démantelée et pour construire des résidences somptueuses. Donc ces gens-là, ces cinéastes, comme ces écrivains, ce sont des chroniqueurs. C'est pourquoi moi je les ai appelés dans le livre, ce sont des passeurs de temps. Ils nous aident à passer d'un temps à un autre.
Alors, ils sont chroniqueurs de la société. Dans la société chinoise, on ne peut pas en parler sans évoquer ce fameux Guanxi qui régit toutes les relations entre les personnes, que l'on soit cinéaste ou pas.
Alors, qu'est-ce que c'est ça, Guanxi? On n'arrivera pas bien à le traduire. On n'arrivera pas bien à le traduire en français, mais parce que il n'y a pas d'équivalent d'une langue à l'autre, en particulier du chinois au français. Et puis, le chinois, plus exactement la langue Ranui, c'est des pictogrammes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est d'une extrême sensualité, c'est pas abstrait, c'est pas spéculatif, c'est pas conceptuel. C'est toujours, je crois que c'est une des grandes caractéristiques de la société chinoise, c'est sa sensualité. Hein. On va pas séparer... le sensible et l'intelligible, mais il y a tout ce qui est vécu, c'est vécu non pas comme dans l'humanisme occidental, dans la recherche d'une espèce d'idéalité du sens, mais c'est toujours vécu dans la matérialité des sens. C'est sensuel, la culture chinoise. Moi, la civilisation chinoise, telle que je l'aperçois, elle est très gustative. C'est pourquoi c'est très agréable d'être en Chine. Alors Guanxi, c'est quoi? C'est un lien de confiance qui se forme dans le creuset de la famille. C'est-à-dire que le père, parce que la famille, ça c'est vraiment une grande valeur chinoise, hein, le père doit inspirer confiance à ses enfants, à sa femme, et les enfants, les fils, les filles doivent avoir confiance dans les parents. Alors, et moi je dis, cette relation de confiance dans les autres qui se forme dans le creuset de la famille, c'est quelque chose qui est de qui me semble très proche à la démarche ethnographique, qui est aussi dans une relation de confiance et de très grande proximité avec les autres. Seulement, les choses sont en train de changer, et on pourrait parler, même si ça sonne bizarrement en français, d'une déguancisation. C'est-à-dire qu'il y a quand même une perte des valeurs d'autorité de la famille. Bon, c'est la société chinoise, dans les grandes villes, c'est une société dans laquelle il y a beaucoup de divorces. Hein, et c'est une société dans laquelle les femmes en ont marre d'être opprimées. Mais ça demeure encore. Hein, en Chine, au Japon, il y a toujours statutairement une supériorité des hommes sur les femmes. Donc il y a une espèce de déliaison de ces valeurs de solidarité du groupe par rapport aux individus qui s'émancipent. Et parce que, voilà, moi, c'est aussi quelque chose qui me frappe dans mes séjours là-bas. C'est une société qui est en voie d'individualisation croissante, hein, où la solidarité... moi, ce que j'ai observé, c'est souvent le contraire de la solidarité. Je me suis aperçu quand les gens... C'est tout un problème, hein, de traverser une rue, hein, parce que les voitures vous foncent dessus, elles peuvent écraser les vélos, etc. Et là, je pense que personne va porter secours aux autres. C'est une société qui devient beaucoup une société du chacun pour soi. Mais néanmoins, c'est pas tout à fait l'individualisme d'ici, quoi. Parce que, bon, disons que ces valeurs de l'individu, elles sont en concurrence avec les valeurs du groupe, mais les valeurs du groupe, elles sont encore prégnantes.
Alors, vous faites un parallèle entre la société chinoise et la société brésilienne en insistant sur une recherche de consensus. Ça m'a beaucoup étonné.
Ah ben oui. Si vous êtes à Paris, là, on est à Paris, là, pendant qu'on fait cet enregistrement. Je ne sais pas comment c'est à Lille, mais bon, les voitures cherchent à se dépasser, se doubler. Les feux rouges sont tout juste respectés. Je prends cet exemple-là des automobilistes qui ont ici en France des comportements extrêmement individualistes. Au Brésil, non. Ce qu'on dit souvent, si quelqu'un n'avance pas, ils vont dire souvent « avance chérie, fais attention ». Mais ce qui est ce que les Brésiliens ne peuvent pas accepter, c'est la division, c'est surtout la division, c'est le conflit aux yeux des autres. Et alors, c'est un parallèle, mais en même temps, faut pas le pousser plus loin que ça, parce que la société chinoise, elle est très différente. Mais c'est sûr qu'il y a une valeur fondatrice en Chine. Mais ça, c'est répété dans tous les discours de Hu Jintao. C'est la société d'harmonie. Hein. C'est la société d'harmonie. Harmonie de tous les Chinois entre eux, harmonie avec la nature, qu'on trouve chez Confucius. C'est un peu un discours quand même idéologique qui va masquer des conflits. Mais regardez, moi, ce qui est impossible en public, en Chine... Il y a des questions qui en public ne peuvent pas être abordées. On peut parler de beaucoup de choses. Hein. On peut parler de la corruption. On peut parler de la montée des prix. On peut même parler de l'expropriation. Mais il y a des choses dont vous ne pourrez pas parler en public. C'est Taïwan. C'est le Tibet, ou si vous en parlez, c'est toujours d'une certaine manière, et c'est surtout ce qui s'est passé place Tiananmen en juin 89. Et là, vous voyez les chars qui tirent sur les étudiants, qui tirent sur le peuple, c'est quelque chose qui doit être nié. Parce que c'est épouvantable d'un point de vue chinois qu'il y ait un groupe qui en affronte un autre. Que des Chinois se tuent entre eux. Ça, ces images-là, elles, actuellement encore, elles sont occultées. Et elles sont occultées parce que et tout encore doit être résolu au nom de cette harmonie. Bon, mais pas évidemment chez les chercheurs chinois, qui sont aussi critiques que nous, vous voyez, qui sont pas dupes des disparités.
Mais finalement, personne n'est dupe.
Oui.
Ça, en fait. Alors justement, puisque Tiananmen doit être occulté, ou en tout cas est interdit, et puis il y a beaucoup de choses comme ça dans la société chinoise, moi j'avais l'impression que c'était pas un hasard si c'était les rois de la contrefaçon, puisque vous nous dites que c'est une société du trompe-l'œil permanent. Oui. Donc contrefaçon et trompe-l'œil, c'est pas mal.
C'est beaucoup une société du simulacre. Mais j'en parle dans le livre. Il y a une province du sud de la Chine où il y a eu un concours de Mao, de faux Mao. Il y avait des centaines de personnes qui se précipitaient avec une verrue sur le visage. Il s'agissait d'imiter la figure du président Mao, tout en sachant que c'était des faux. Actuellement, il y a, et c'est assez ludique, ce qu'il y a dans les comportements chinois, beaucoup de jeux. Hein. C'est pas les comportements chinois sont pas des comportements sérieux. Les Chinois que j'ai rencontrés, c'est des gens qui aiment beaucoup s'amuser, qui aiment beaucoup plaisanter. C'est très drôle, hein, la Chine. Mais il y a cette falsification. J'ai vu à la télévision des fausses émissions. Il y a des jeux où on s'amuse à chanter faux. Quand j'étais dans le palais, dans le temple du ciel, il y avait des faux gazouillis d'oiseaux. Et j'ai un ami chinois qui m'a raconté qu'un jour, il achète un magnifique chien noir. Et puis ce chien noir perd ses poils et devient un moche chien tout gris. Vous voyez, donc il y a...
C'est sûr que le chien noir qui est teint, c'est pas mal.
Faux, vous savez, c'est très fréquent quand même. Il y a les faux diplômes, les faux permis de conduire, les faux...
Il suffit de payer. Hein. Quelle attitude adopter pour essayer de comprendre la Chine sans la juger?
Mais vous voyez, je pense que c'est... Les occidentaux... Enfin bon, quand je dis les occidentaux, c'est pas homogène, parce qu'il y a tous les courants en Occident, il y a toutes les sensibilités... les occidentaux ont tendance quand même à avoir une attitude un peu arrogante en pensant que eux ils ont réalisé la démocratie. Et vous savez, notre modèle de société, elle fait pas du tout plaisir aux Chinois.
Elle leur fait même pas envie.
Voilà, c'est ça. Et vous avez sans doute interviewé, mené des entretiens avec des étudiants chinois qui vivent ici. Ça leur fait pas du tout plaisir. Il y a des choses qui ne... Il y a des choses que les Chinois ne peuvent pas accepter. Notre comportement vis-à-vis des personnes âgées, le côté un peu bordélique de la société, parce que la société chinoise, elle est plutôt quand même une société d'ordre. Pas toujours, mais quand même. Mais c'est les philosophes chinois et les écrivains chinois... qui ont eu l'attitude la plus critique vis-à-vis d'une certaine tendance, on va dire, sinon totalitaire, du moins totalisante de la société. Un auteur comme Lu Xun, dont on évoquait le nom tout à l'heure, il est extrêmement dur vis-à-vis des mœurs de ses concitoyens. Il pense que ce sont des moutons qui obéissent et qu'il faut les réveiller. Et si vous lisez Lao She, qui est vraiment pour moi l'écrivain qui m'a le plus inspiré dans la connaissance de la ville de Pékin, il est aussi extrêmement critique de la Chine de son époque. Donc faut pas imaginer une Chine, servile, obéissante à des dignitaires qui imposeraient leur ordre. Il y a aussi une contestation en Chine. Il y a aussi une pensée critique. Mais ce dont je parle là, c'est pas ce qu'on appelle ici la dissidence. C'est pas les gens qui vont partir aux États-Unis, etc. C'est de l'intérieur même de la Chine, il y a une pensée critique. C'est ça qui est très important pour moi. La pensée critique, elle ne vient pas seulement de l'Occident. C'est pas nous qui l'imposons aux autres. Donc il faut appréhender la Chine en essayant de ne pas projeter notre façon de comprendre et de connaître. En essayant de ne pas imposer nos modèles. Parce que ça ne marche pas. La Chine ne peut pas se réduire. La société chinoise ne peut pas se réduire à un modèle qu'on appelle en anthropologie culturaliste, à savoir qu'il y aura une hétérogénéité entre la culture chinoise et les cultures européennes, mais ce n'est pas vrai. Et puis ça ne peut pas se réduire non plus au modèle unificateur de type républicain. C'est quelque chose d'autre que les Chinois, et en particulier les intellectuels chinois, sont en train d'inventer. Il y a un mot qui revient très souvent dans les discours à l'université auquel j'ai participé, c'est transition. Vous voyez, la Chine est en train de vivre une époque de transition, et ce qu'il faut éviter absolument, alors ça c'est, même si c'est pas dit toujours, tout le temps, pour moi c'est très fort, il faut absolument éviter la dissociation de l'Empire, il faut absolument éviter ce qui s'est passé en Union soviétique. C'est très difficile parce que toutes les parties, c'est immense la Chine, toutes les parties, toutes les provinces doivent tenir ensemble. C'est pourquoi, pour les tenir ensemble, il faut une poigne de fer. Mais ça ne veut pas dire que c'est définitif, ça veut dire que c'est provisoire et qu'on va tendre vers plus de liberté. De même, vous savez sans doute, parce que moi, cette question-là, on l'a abordée avec les collègues à l'université, dans les séminaires, la question des droits de l'homme. Pour nous, en Europe, aux États-Unis, les droits de l'homme, c'est un principe intangible. Et pour les Chinois, pour les intellectuels chinois, il n'existe pas de principe intangible. On va arriver vers plus de liberté, plus de droits, mais sans imposer des modèles de l'extérieur. Et c'est ça qui est agréable en Chine, c'est que la Chine, bien sûr, elle est très perméable à nos influences, mais elle ne s'en laisse pas compter. On est vraiment dans un partenaire, avec un partenaire qui ne va pas du tout adopter nos modèles de conduite, sauf sans doute dans la dimension mercantile et consumériste, oui.
Ah oui, ça c'est bien réussi. Eh bien, puisque nous sommes en période de transition, attendons de voir l'avenir. François Laplantine, merci.